Jeudi le 1er décembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Émission bien chargée aujourd'hui. Évidemment, on va parler du match canadien Flames ce soir avec Marc Denis en direct de Calgary. Guy Boucher sera là. Et vers midi 40, midi 45, on va retrouver notre collaborateur soccer, ouais, je devrais dire, Sidney Faureau, avec qui on va revenir sur le dernier match du Canada à la Coupe du Monde qui vient de se terminer, une autre défaite, donc trois défaites en autant de sorties pour l'équipe canadienne. Revers de 2-1 face au Maroc. Il y a eu match nul entre la Croatie et la Belgique. Donc, les Belges sont éliminés comme le Canada de cette Coupe du Monde. On va y revenir un peu plus tard. Salut Martin, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Écoute, je ne sais pas si tu as vu les derniers instants du match de soccer du Canada. J'avais dit que je mettrais mon chien, hein, j'ai oublié.
Oui, moi j'ai mis mon rouge.
On s'est aperçu que gardien but, on comprenait pourquoi il était gardien but. Il court un peu moins vite que les autres hein, quand il s'avance comme ça. Bref, on va en parler tantôt. Salutations particulières aujourd'hui, on est le 1er décembre, Yann. Je pourrais saluer les retardataires, les pneus, c'est fini. Fait que si vous ne les avez pas, vous êtes en retard. Ceux que leur dernier trimestre de taxes ou peu importe les impôts, il fallait remettre qui sont en retard. Vous êtes en retard. On pourrait saluer les retardataires, mais au lieu de faire ça, Yann, je vais saluer les gens qui voient le 25 décembre s'en venir puis qui sont tout seuls. Fait que j'en parle là pour ne pas en parler dans la minute. Faites le tour. Vos amis, vos familles, vos frères, sœurs, mères, s'il y en a qui sont supposés d'être tout seuls, essayez de passer un appel puis de vous regrouper. On ne veut pas que personne passe le temps des fêtes tout seul. Donc, salutations à toutes ces personnes qui sont malheureusement, la vie fait comme ça, qui sont seules. Hey, tu sais, hier, je te disais, moi, j'étais un gardeur, puis j'ai déménagé, puis j'ai défait les boîtes. Puis, pour te montrer à quel point je suis gardeur, tu sais, dans mes cadres, je mettais souvent des gens, pendant la pandémie, on a mis des gens qui avaient fait des gestes vraiment que je trouvais héroïques. Puis, étant donné que mon mur derrière, ouais, c'est pour les gens inspirants, mais j'avais commencé à changer un cadre de temps en temps pour des choses inspirantes. Mais, crime, je garde tout. Regarde bien. Bon, tu te souviens, on a fait l'Ukraine, ça sera encore très d'à propos, oui, de mettre encore l'Ukraine là. C'est pas réglé, ça, puis j'ai l'impression qu'on agit comme si. Mais tu sais, il y a déjà eu Tom Brady, il y a déjà eu... Attends une seconde. Déjà eu Mario Lemieux. Là, je vais passer les pseudo-vedettes, là, comme Georges Saint-Pierre. Qui est intéressant à voir Georges Saint-Pierre? Naomi Osaka, Serena Williams. Mais j'avais reçu... On avait reçu une lettre, Yann. Je me souviens de ces gens-là qui travaillaient dans le monde scolaire puis qui aidaient les jeunes à passer à travers. Ici, on avait un gars, Cédric, qui nous avait envoyé une photo de lui et de sa conjointe, qui est médecin, qui ont travaillé fort pendant la pandémie. Des femmes, des gens qui avaient travaillé, tu sais, ils nous envoyaient comment c'était dans les milieux hospitaliers, qui étaient toutes grimées avec ces choses-là pendant la pandémie. On avait mis ces gens-là sur mon mur derrière. Je ne sais pas si tu es de cette jeune fille-là qui s'était fait raser les cheveux pour oui, la bonne cause. On avait parlé pour l'aider à ramasser de l'argent. Donc, je garde tout. Je garde tout. Je me rends compte vraiment que je suis un keeper. Mais si jamais vous avez des gens qui sont exceptionnels pendant le temps des fêtes, qui font des gestes qui méritent d'être salués, tu te souviens, on a déjà fait ça aussi. On avait dit, s'il neige dans votre coin, allez donc déneiger les autos d'un centre pour personnes âgées. Pour donner un coup de main. Fait que si vous voyez des gens qui font des gestes superbes et ils méritent d'être nommés en nombre puis d'être en arrière, je pense que je vais enlever Terry Fox, le temps des fêtes.
Correct, ça, c'est parfait. Les gens ont juste à t'envoyer des photos puis tu pourras changer quelques photos dans tes cadres derrière. Donc, on va parler du Canadien, on va parler de soccer un peu plus tard. Allons-y immédiatement, on s'en va du côté de Calgary, où il fait très froid, comme nous l'a expliqué François Gagnon hier, qui est aussi là-bas. Marc Denis, qui est déjà installé au Saddle Dome. Salut Marc, comment ça va?
Ça va bien, chaud depuis une couple de minutes, là, fait que c'est moins pire, mais ouais, hier, une longue journée, on atterrit, il faisait déjà noir, puis il faisait moins 24, aujourd'hui, ça ressemble à ça encore, d'ordinaire, là, la marche d'un peu plus d'un kilomètre entre l'hôtel puis le Saddle Dome, elle se fait assez bien, aujourd'hui, j'ai triché, je suis avec les collègues Martin et Danny, puis on était dans un taxi, parce que là, c'était pas chaud un matin, fait que voilà, mais ici, à l'intérieur du Saddle Dome, on est bien, il fait chaud, puis... les joueurs des Flames de Calgary qui commencent à entrer sur la patinoire. Ça ressemble à Jakob Markstrom avec Jason LaBarbera qui fait sa routine d'avant-match. Connor Mackey et Kevin Rooney, donc les deux joueurs qui ne joueront pas ce soir pour les Flames, sont déjà sur la patinoire.
Le monde sont intéressés à savoir, puis je me suis mis en compte contre ceux qui lapident Jake Allen sur la place publique. N'empêche, il l'a quand même perdu lors du dernier match. Est-ce que ce sera Jake Allen, selon toi, ou Samuel Montabeau? Parce que les Canadiens sortent sur la glace à notre heure seulement à 13h30.
Oui, exact. Mais écoute, moi, je pencherais du côté de Samuel Montembeau, puis c'est pas nécessairement punitif. Puis, je vais le redire encore, on ne devient pas gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey après 8 départs. C'est pas comme ça que ça se passe. Jake Allen a... La position de gardien va au-delà des arrêts qu'on effectue. C'est la position la plus contagieuse dans le sport qui nous passionne. Et Jake Allen a l'expérience. Il a 370 matchs derrière la cravate. Il a un calme. Il y a une prestance, puis il est déjà passé par là. Donc ça, c'est calmant pour une jeune équipe. Mais Samuel Montembeau mérite d'avoir des départs. Et il a été très bon dans les deux départs à l'étranger. Je le verrais très bien, donc, obtenir le départ ici ce soir. Il faut rappeler que 4 matchs en 6 jours pour le Canadien. J'ai aucun problème à ce qu'on divise ça en plein milieu pour que les deux gardiens aient deux départs. Mais j'amorcerai ça avec Samuel Montembeau en restant flexible. Ce serait ma décision, mais c'est pas moi qui apprends. On le sait. Tu sais, Allen, quand on compare, les statistiques traditionnelles ne sont pas bonnes. Il n'y a pas vraiment eu 4 ou 5 derniers départs qui ont été concluants, mais quand on regarde son taux d'efficacité face à la grande qualité des chances de marquer qui sont accordées par le Canadien, il ne s'en tire pas si mal. Pour moi, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, puis je vais vous lancer ça comme ça, mais pour moi, ce qui illustre la séquence dans laquelle se retrouve Jake Allen en ce moment, bon, oui, il y a les buts tôt dans le match, mais c'est le but de Logan Couture. T'sais, c'est une occasion de marquer en or. C'est une échappée au meilleur joueur de l'autre équipe. Tu as l'impression qu'Allen va faire l'arrêt, mais finalement, la rondelle lui glisse entre les pattes et c'est dans le fond du filet. Exact. Fait que c'est un peu le genre de séquence ou de situation dans laquelle Jake Allen semble s'être embourbé en ce moment. Et c'est pour ça aussi que tu as deux gardiens. La plupart des équipes ont deux gardiens. Là, Vladash, on ne sait plus comment le prononcer, il vient de jouer les deux derniers matchs ici pour les Flames de Calgary aussi. Il n'y a personne qui doute que Markstrom est le gardien de but numéro un. Mais Vladash a joué les deux derniers matchs, même s'il y a eu une défaite. Il a gagné le dernier match contre les Panthers. Puis c'est pour ça que je regardais. Là, j'aurais pas été surpris que ce soit lui qui obtienne le départ non plus. Quoique, en travaillant avec la Barbera, Markstrom va être de retour devant le filet. Ça semble être le cas. Bref, la réponse courte, c'est Montembeau aujourd'hui, puis on reste flexible. Mais moi, je lapide pas sur la place publique Jake Allen.
De toute façon, on va le savoir cet après-midi. Puis peu importe qui sera devant le filet, le Canadien aura un gros défi devant eux ce soir, mais ce match-là va aussi marquer le retour de Sean Monahan à Calgary. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui commentent, qui ont hâte de voir. Il y a Jérémy Veilleux qui dit « Ah, Monahan va faire payer les Flames de l'avoir échangé ». Bref, il doit avoir une belle motivation dans le cas de Monahan, puis il va bien avec le Canadien, depuis son arrivée avec le Canadien. Donc, ça risque d'être intéressant quand même de voir. Après Tkachuk cette semaine à Calgary, bien là, c'est le retour de Monahan.
Oui, c'est une semaine un peu émotive ici. Ces deux joueurs, évidemment, qui ont amorcé leur carrière avec les Flames. Tkachuk a peut-être eu plus d'impact, mais ne voulait pas s'associer à long terme avec l'équipe. Dans le cas de Monahan, ben, les blessures et son contrat, la dernière année de son contrat, l'auront chassé de Calgary. Hier, Daryl Sutter était très élogieux à l'endroit de Monahan. Il a dit qu'il cochait toutes les cases. Une bonne personne, un bon coéquipier. Monahan a joué blessé. Daryl Sutter n'a jamais eu sous sa main de Sean Monahan en santé. Aujourd'hui, à 28 ans, a une deuxième occasion de poursuivre sa carrière, dans le fond, avec le Canadien Sean Monahan. Puis oui, il fait très bien, parce que moi, je trouve qu'il s'applique dans les menus détails. Difficile pour lui de s'entraîner. On suspecte une légère blessure mineure au bas du corps qui fait que Monahan n'est pas capable de s'entraîner à tous les jours. Il n'empêche que Monahan, pour moi, après le premier trio de Suzuki, Caulfield et Doc, et ce qui représente le plus bel exemple de constance à l'attaque chez le Canadien depuis le début de la saison. Et ça, c'est pas rien quand on considère qu'on se demandait si Monahan allait même être capable de suivre la parade. Il est, pour moi, à un niveau de jeu, à un rythme, pas juste la vitesse de son coup de patin, mais à une cadence 2022 sans aucun doute. Il va attirer l'attention et, pour l'instant, il est un très bon exemple pour les jeunes joueurs du Canadien Montréal.
Je vais te dire une affaire. Moi, j'ai été pas surpris, mais tu sais, Sutter, c'est pas affaire. Capitaine. Je fais des compliments à des anciens joueurs. Et hier, ouais. J'ai été quand même... tu sais, c'était des beaux compliments. Puis Sutter l'a dit. Moi, je l'ai jamais eu en santé. Mais il coche toutes les cases. Honnêtement, T'sais, pour voir comment il a répondu pour Tkachuk, je trouve que ça en dit beaucoup au sujet de Monahan.
Oui, puis c'est exactement ce que j'entends aussi depuis que le Canadien a fait son acquisition. T'sais, on parle à des gens, puis on s'informe, puis Monahan, c'est devenu un professionnel. Les blessures, des fois, vont faire ça. C'est un joueur de grand talent. Il était sixième choix au total de l'an 2013, il faut s'en rappeler, mais quand tu as des blessures, tu veux revenir, c'est important pour toi. Ce sont de longues heures passées à l'aréna. Puis là, tu t'accroches à cette certaine routine-là qui te permet de jouer, qui te permet de revenir en santé. Et là, tu deviens un vrai pro. C'est ça. Tu sais, on entend des fois Martin Saint-Louis dire « Pourquoi lui à cette occasion-là? » Parce que c'est un vrai pro. Bien, c'est des gars sur lesquels tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie. Tu sais qu'ils vont être prêts pour chaque entraînement, chaque pratique, chaque match. C'est le cas pour Chandonnard.
Avec pas d'allié.
Si... ouais, là, écoute, j'ai hâte de voir là, ce matin. Mais Martin, c'est intéressant ce que tu dis. Puis là, je veux pas me fâcher un matin, fait qu'on parle pas d'Armia. Mais, tu sais, j'ai hâte de voir si ce qu'on a vu en fin de match contre San Jose avec Slavkovski et Anderson, moi, je commencerai demain. En sachant que, pour une présence de fin de période, par exemple, tu peux insérer Armia qui est là parce qu'il est peut-être un peu plus responsable que Slavkovski défensivement. Mais, tu sais, j'aimerais voir Slavkovski, qui a eu de bons moments dans le match contre les Sharks de San Jose, obtenir plus que son 10-12 minutes habituelles. J'aimerais ça le voir aller à 12-14, voir ce que ça donne avec des alliés. Puis là, j'enlève rien à Pezzetta et à Evans, mais c'est la réalité. Là. Armia, Pezzetta, Evans, c'est des donuts. Là. C'est zéro. C'est des bangs. C'est une ligne de aucun but. Bien, tu sais, ce serait le fun que Slavkovski ait des éléments offensifs avec lui. Puis comme je l'ai dit, en sachant que si tu protèges une avance ou que c'est la dernière présence d'une période, que tu peux envoyer Armia à cet endroit-là. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais voir, mais encore là, hier, il manquait trop de joueurs sur la patinoire pour qu'on ait une idée des combinaisons. Et ce matin, bien, je regarde derrière moi, il n'y a toujours pas... il n'y a que les deux joueurs là, que je vous parlais tantôt, le Mackie Rooney en compagnie de Markstrom qui sont sur la patinoire. Fait que là, peut-être que ça me dit que Markstrom, c'est peut-être pas lui qui va jouer non plus. Peut-être que c'est Vladash, puis que Markstrom est juste en train d'y aller d'un entraînement en compagnie de Jason LaBarbera. Bref, voilà pour ce que j'aimerais voir à l'attaque. Et Monahan, qui est lui aussi des alliés, des alliés qui sont capables d'amener de l'offensive. Parce que moi, le trio de Dadonov, Dvorak, Gallagher comme troisième trio ne me dérange pas. Quand on est obligé de les utiliser comme un deuxième trio, là, je pense que ça va être compliqué. Puis ce soir, là on fait lien avec le prochain sujet ou un des prochains sujets, c'est que ce soir, là, le long des rampes dans ton territoire, il va falloir que la rondelle la sorte. Ça va être le nerf de la guerre pour le match de ce soir. Donc, c'est pour ça que je dis, puis on le sait que c'est pas facile pour Gallagher. Alors que, tu sais, pour Anderson et Slavkovski, là, t'as deux alliés avec un bon gabarit, eux autres devraient être capables de sortir la rondelle. En tout cas, ça va être leur défi. Ça, je trouve ça intéressant pour Monahan aussi, pour son retour à Calgary ce soir.
Tu disais que tu avais hâte de voir comment le Canadien va réagir face à l'échec avant des Flames qui étouffe beaucoup le jeu. Là.
Yann, t'as employé le mot. Étouffer, là, c'est un peu ce que Daryl Sutter tente de faire. C'est pas un échec avant. Tu sais, à l'époque, on disait un échec avant, deux hommes très agressifs, ça frappe. C'est plus ça. C'est que les défenseurs s'assoient sur les ailiers, mettent énormément de pression en se remplaçant par le centre de la glace. Les deux attaquants qui n'ont pas mis de la pression sur le passeur original, eux, viennent prendre la place des défenseurs. Et là, ce qui est la force du Canadien, ça va être difficile de la matérialiser parce que la transition, elle est ralentie à la ligne bleue. Défensive, à ta propre ligne bleue. Les Canadiens ont beaucoup de succès quand ils sont capables de générer de la vitesse en sortie de territoire en possession de rondelles, passer à travers la zone neutre, et là, en entrée de territoire, c'est pour ça que tous les entraîneurs, c'est pas juste les entraîneurs, c'est la vérité, c'est pour ça que tous les entraîneurs saluent le travail du Canadien en contre-attaque, parce que c'est une équipe qui obtient beaucoup, une des meilleures de la Ligue nationale de hockey, j'ai même pas peur de le dire, en générant de la vitesse en entrée de territoire, mais tout ça part de ta zone, et ce soir, ça va être ça le défi, de contrer ce style oui, qui étouffe la part de Daryl Sutter des Flames de Calgary.
Oui, ce serait intéressant de voir ça. Tu as raison, tout le monde en parle à quel point que le Canadien a réussi à contre-attaquer rapidement. Et là, ce sera intéressant de voir le début de match parce que le Canadien plie souvent en début de match. Le Martin a fait des jokers en disant on va aller sur la route, comme ça va être moins pire.
Ouais.
Mais même Suzuki en a parlé en disant c'est souvent mon trio en plus.
Ouais, mais on peut pas dire qu'à Columbus ou à Chicago, ça a été le cas. Puis moi, ce que je trouve, là, pour l'instant, du moins, là, pour ces deux matchs-là, parce que là, tu t'es fait rincer contre Buffalo, fait que tu arrives sur la route, t'as un peu plus peur, t'as perdu contre San Jose. C'est quasiment de jouer un match plate en début de rencontre à l'étranger. Puis de simplifier les choses. Mais simplifier les choses, là, ça, je trouve ça important de le dire. Plus simple, ça veut pas dire que c'est plus facile. tu sais, de simplifier les choses, c'est pas nécessairement facile à faire. Ça veut juste dire de jouer du hockey où il n'y a pas beaucoup d'événements marquants. Il n'y a pas de faits saillants. Pas tôt dans le match. Et là, tranquillement, pas vite, tu gagnes en rythme, tu t'installes. Et là, le match demeure à ta portée plus longtemps. Et c'est ce que le Canadien a fait dans les faits et dans la pratique. C'est ce que le Canadien a été en mesure de faire à Columbus et à Chicago dans un match où ça a pris un certain moment pour que l'intensité s'installe.
Marc, je vais y aller avec une question du public qui est en lien un peu avec ce que tu parlais avant, là, l'échec avant, puis que les Flames étouffent l'adversaire. Michel Levaudry, Madame Vaudry te demande, Marc, peux-tu m'expliquer un peu comment on se sort de cet étouffement? Et elle dit qu'elle a remarqué qu'au dernier match, Suzuki et Caulfield n'ont pas vraiment comme à l'habitude. Donc, elle va avoir des explications un petit peu là-dessus.
Moi, le dernier match, Suzuki Caulfield, moi, je dirais qu'il y en a de même dans les 82, parce que Caulfield a quand même décoché, et vers la fin de la rencontre, là, quand j'avais la dernière fois, j'avais vérifié les statistiques, avait quand même tenté 8 tirs vers le filet. Le synchronisme n'était pas là pour le tir sur réception. Il y a eu des rondelles bloquées, ça, on vous l'a montré. Là, les joueurs des Sharks en ont bloqué autant que leurs gardiens. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Puis, Madame c'est Michel, Madame Michel.
Vaudry, ouais.
Tu sais, ouais, on va se le dire, là. Si vous le savez, puis moi, je le sais, c'est sûr que les autres entraîneurs, ils savent que c'est Caulfield et Suzuki qu'il faut que tu aies à l'œil tout le temps. C'est eux autres qu'il faut que tu mettes une couverture. Alors, c'est sûr que ça va arriver. Alors, pour ces deux-là, en tout cas, voilà ma réponse. Écoute, la question est très bonne, puis elle est très bonne pour... Je pense que c'est Guy Boucher qui va être là dans quelques minutes. La question va être bonne, puis j'aimerais que Guy réponde aussi, parce qu'il a certainement beaucoup plus d'expertise que moi. Le premier rapport à part... Ah, on peut le rentrer aussi, puis faites-le pendant que je commence mon explication, s'il est là, puis il est disponible, puis il me contredira, ça ne me dérangera pas pantoute, mais moi, je pense que le premier apport qu'on peut faire, c'est vraiment la communication gardien-défenseur, et si les défenseurs, Michael Matheson aide beaucoup dans ce département-là, sont capables de commencer en patinant. Pas juste se débarrasser de la rondelle, la faire circuler le long de la rampe, parce que ça complique la vie des alliés. Si on est capable de commencer à patiner, ne serait-ce que quelques enjambées, ça met le bloc de 5 joueurs qui veut sortir en mouvement. Ça, c'est le premier élément qui peut aider ou qui empêche les défenseurs adverses de s'asseoir sur les alliés parce que là, tout d'un coup, il faut que tu respectes le surnom. Alors que quand ton attaquant numéro 1 met de la pression, que le défenseur il est dans sa poche arrière, là, l'attaquant qui met de la pression, puis tu es obligé de faire circuler la rondelle le long de la rampe, que tu utilises la rampe pour faire des passes vers les alliés, là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, tu as le défenseur directement dans le visage quand tu es un allié. La deuxième chose, bien, c'est les passes indirectes en deuxième lieu. C'est-à-dire que si on rejoint, finalement, on n'est pas capable de faire la sortie par le centre et qu'on rejoint l'ailier va devoir y aller de passes indirectes, que ce soit de façon transversale ou que ce soit par la même bande que tu vas quitter. Donc, de pas rester à côté, adossé à la bande, de créer une légère séparation pour être capable, en vitesse, d'aller récupérer ces rondelles-là dans le territoire central. Là où les Flames gagnent beaucoup en rythme dernièrement, puis ça n'a pas toujours été évident, là, il y a une séquence de 7 matchs qui n'ont même pas gagné, mais c'est quand les équipes font ce que je viens de vous dire là, qu'ils envoient la rondelle, en anglais on dit un chip, dans zone neutre, et que les Flames la récupèrent et réattaquent, c'est là où les équipes se mettent dans le trouble, et c'est pour ça qu'on va surveiller cet élément-là dans le match de ce soir.
Absolument, c'est comme un concours de... Puis j'ai hâte, moi aussi, d'en parler avec Guy. Guy, présentement, des problèmes de son. J'essaie de l'aider.
Okay.
Ce serait intéressant de voir, parce que ça devient un concours de stratégie. Tu sais, le Canadien utilise beaucoup de chip-out. Est-ce que le Canadien va le faire? Est-ce que le Canadien va demander à ses alliés de venir descendre plus bas comme demandait Dominique Ducharme à l'époque? Ça serait intéressant de voir les ajustements.
Mais je ne suis pas toujours convaincu. Là. C'est en descendant plus bas. C'est peut-être en n'étant pas prisonnier de la rampe. T'sais. Si tu ne restes pas sur la rampe, tu ne peux pas te faire prendre là. Je veux dire, c'est du gros bon sens, mais ça demeure quand même que c'est vraiment le style éteignoir que Daryl Sutter pratique. C'est pas, tu sais, des trappes. Il y en a plusieurs façons de le jouer. Lui, il le fait à la ligne bleue offensive. Il l'a toujours fait de même. Puis ça permet à ton équipe de récupérer en zone neutre. C'est là où il va y avoir un défi. La bataille de la zone neutre va être importante. Je sais que ça ne fait pas les matchs les plus excitants toujours, là, mais c'est la réalité. Je dis tout ça, mais les Flames, c'est quand même une équipe qui est très talentueuse. Puis Huberdeau semble commencer à trouver certains de ses repères. Kadri, c'est plus long à partir. Mangiapane, c'est pas comme l'année passée. Tu sais, il y a quand même des joueurs du côté des Flames qui doivent se reprendre d'un début de saison plus lent.
Ben justement, parlons-en de Jonathan Huberdeau. Tu l'as dit, il se replace, là, ça va un peu mieux dans son cas. De lui-même, il a avoué que ça a été difficile l'adaptation au début. Ça va être intéressant de surveiller à la fois Huberdeau contre le Canadien, mais aussi à la fois Tyler Toffoli qui va affronter son ancienne équipe aussi dans le match de ce soir, Marc.
Oui, puis je t'écoutais, Yannick. Je voulais juste voir ce qui se passait.
Je
puis,
sais.
Je vous le dis comme ça. Ouais, mais je vous le dis comme ça parce que je trouve ça important. Là, c'est pour ça aussi qu'on fait des on jase quand je suis à l'étranger. Je vais essayer, là, pas que Val me chiale avec l'éclairage. C'est Vladash maintenant qui est sur la patinoire. Mark Strom n'est plus là. Vladash vient d'arriver sur la patinoire, mais il y a juste les joueurs en extra pour l'instant encore qui sont là, soit Mackey et Rooney. Alors, je sais pas ce que ça veut dire là, pour tout de suite, là, mais c'est ce qui se passe derrière moi sur la patinoire. Ben oui, Huberdeau commence à trouver ses repères. Puis c'est pas évident quand tu es repêché depuis 2011 avec une équipe. Ça fait 10 ans que tu passes presque 11 avec la même formation, que tu arrives. Puis là, c'est pas juste l'histoire de la différence entre la moins 25 de Calgary et le plus 25 de Fort Lauderdale. Là. C'est pas ça qui est le plus complexe. Le plus complexe, c'est de jouer dans un nouvel uniforme, de trouver tes repères, d'apprendre à jouer dans l'Ouest. C'est pas les équipes, puis sinon, mais c'est les déplacements, le voyagement, le décalage horaire. C'est un peu tout ça. Fait que moi, je lui donne clairement un peu de temps avec Lindholm et Toffoli, parce qu'on voulait en parler, Yannick, tu as raison. Moi, je pense qu'on est en train de créer ce qui ressemble à un premier trio, en sachant que très bien que certains soirs, c'est peut-être Kadri et Mangiapane qui vont être les meilleurs sur la patinoire, et ce sera correct comme ça. Tu sais, Huberdeau, pour moi, est un excellent fabricant de jeu. Lindholm est capable de la mettre dedans, comme on dit en bon français, Toffoli aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, mais c'est clair que ça n'a pas été de tout repos. On l'a essayé au sein des quatre trios, Huberdeau puis Daryl Sutter, il y a peut-être trois semaines, là, je dirais, avait même dit au retour au jeu d'Huberdeau qui a manqué 2-3 matchs, il avait dit « Pourquoi tu l'installes à la quatrième ligne? » C'est parce qu'on l'a essayé ses trois premières, puis ça n'a pas marché. T'sais, c'était un peu ça, mais clairement, c'est pas là où on le veut. C'est beaucoup plus à la gauche d'un premier trio, comme c'est le cas en ce moment. J'anticipe après les bons résultats qu'ils ont eu contre les Panthers de la Floride ici mardi, qu'on va le revoir à la gauche de Lindholm et de Toffoli pour le match de ce soir.
Absolument. On l'avait essayé en début de saison. C'était ça le premier trio, puis ça n'a pas marché. On l'avait démantelé. Là, les gars, il y a comme une conversation qui est à part sur On Jase. Depuis qu'on a commencé à parler de Monahan, ça n'a pas arrêté. Il y en a qui se posent, mettons, selon moi, Monahan va demander 5 ans, 5 millions, puis etc. Et tout le monde spécule à savoir, Canadiens sont en reconstruction, doivent-ils le garder? Il y a la théorie des gens sur, puis tu sais, je les nommerai pas tous, là, ils vont se reconnaître. La conversation n'est que sur Monahan, sur On Jase. Il y en a qui disent, tu as besoin de ces bons vétérans-là, tu n'as personne de toute façon pour jouer au poste de deuxième centre tant que Dak ne l'a pas montré, donc c'est important la présence d'un vétéran comme ça. Et tu as ceux qui disent, non, faut pas oublier le plan, on est en reconstruction, on le laisse partir. Tu t'arrêtes où, toi, dans cette théorie-là du Monahan?
Gate.
Monahan Gate, ouais, je pensais pas que c'était... Ben, premièrement, là, la décision n'a pas été prise aujourd'hui. Puis deuxièmement, il faut pas que les bons résultats deviennent un écran de fumée pour le plan global.
On poursuit sur le web, désolé. Il y a quelqu'un qui va être content sur la messagerie texte parce qu'il a exactement utilisé ces mots-là. Il dit qu'il ne faut pas se faire prendre par l'écran de fumée.
Ah, OK. Ben, je ne savais pas. Là, moi, je ne l'ai pas, cette conversation-là. J'ai pas
accès. Non, je le sais. Je vais juste dire qu'il va être content de savoir qu'il a les mêmes propos que Marc Denis.
Oui, mais ça veut. Mais dans le fond, je comprends. Là, ma réponse n'est pas noire ou blanche parce que pour moi, la décision, tu n'as pas besoin de la prendre tout de suite. C'est sûr que tu veux profiter de l'apport d'un vétéran comme Monahan le plus longtemps possible. En même temps, moi, je ne sais pas c'est quoi qui est dans le marché. Mais la journée que tu as le retour anticipé ou appréhendé ou que tu veux, moi, je pense qu'il n'y a aucun doute. Là. Tu fais la transaction, puis c'est pas nécessairement grave que ce poste-là soit vacant. Est-ce que j'aurais aimé que Jake Evans me démontre avec une production offensive qui est capable d'en prendre des bouchées puis de jouer au poste de deuxième, troisième centre temporairement? C'est sûr. Puis je pense qu'il y avait une opportunité qui est en train de rater là. Mais Evans est bon défensivement. Est-ce que j'aimerais ça que Dvorak contribue plus régulièrement à sa feuille de pointage? Oui. Mais tu sais, je viens de te nommer deux joueurs de centre qui sont capables de prendre les minutes. Doc, on va le réessayer au centre à un moment donné. Puis c'est pas grave. Tu vas en trouver un. À un moment donné, là, moi, en tout cas, je ne dérogerais pas du plan global que Jeff Gorton et que Kent Hughes se sont fixés juste parce que, en fait, c'est la situation rêvée. Ce que tu voulais, c'est que Monahan aille justement aussi bien que ça pour qu'il génère de l'intérêt, qu'il augmente sa valeur et qu'éventuellement, sur le marché des transactions, tu sois en mesure de le faire. C'est un contrat d'un an qui reste à Monahan, c'est plus de 6 millions. Tu as déjà eu un choix de première ronde. Moi, je pense que tu continues à monnayer ça. C'est plate, mais je souhaite la meilleure des chances à Monahan puis qu'il relance sa carrière assurément.
Est-ce que le Canadien pourrait, si Monahan continue à connaître de bons moments, est-ce que le Canadien pourrait, ça serait quand même génial, parce qu'on dit que Jeff Gorton et Kent Hughes sont à la recherche d'un autre choix de première ronde, un troisième. Est-ce que Monahan pourrait apporter ce fameux autre choix de première ronde ou c'est trop? Parce que, tu sais, on a déjà eu un pour lui. Imagine si on en ramasse deux pour lui, c'est génial.
Bien, ça, c'est l'équilibre de la patience. Puis, tu sais, si Monahan continue à produire un point par match, oui. Mais on est loin d'être sûr de ça. Écoute, je ne crois pas à ce moment-ci. Est-ce que c'est fou d'en rêver? Non, peut-être pas, parce que je ne sais pas à quel point le marché va s'emballer, puis je ne sais pas qu'est-ce qui est disponible non plus. Puis un joueur comme Monahan, moi, ce qui est en train de me prouver, Monahan, je ne sais pas ce que les dépisteurs professionnels épient, mais moi, ce que je ne savais pas de Monahan, c'est les menus détails du sport qu'il est capable d'appliquer. Mise en jeu, positionnement, sortir la rondelle de ta zone, pas commettre de revirement, bloquer des lignes de tir, des lignes de passe avec un bâton très actif, être très actif avec son bâton. Moi, c'est toutes des choses que je ne connaissais pas de Monahan. Donc, ça, c'est très utile pour une équipe qui se pointe en séries éliminatoires parce que tu sais que tu vas être capable de l'utiliser comme, tu sais, centre de troisième ou quatrième trio. Il peut jouer à l'aile aussi et qui va être capable de remplir plein de cases, comme le disait Daryl Sutter. En plus, il n'y a aucun doute. C'est indubitable que c'est un bon coéquipier, que c'est une bonne personne à avoir dans un vestiaire. Donc, c'est exactement ça que des équipes comme le Lightning sont allées chercher lors des dernières dates limites des transactions. C'est exactement comme ça que les équipes qui renflouent leurs effectifs pour aller à la guerre, c'est le genre de joueurs-là qu'ils vont chercher. Alors, c'est pour ça que c'est pas fou d'en rêver. Tu sais, si des Barclay Goodrow et des Blake Coleman ont déjà rapporté des choix de première ronde, pourquoi pas Sean Monahan? Mais, en même temps, pas certain que c'est ça qui est sur la table en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que Sean Monahan est encore un joueur du Canadien. Il va l'être encore pendant, selon moi, jusqu'à ce que la valeur désirée soit atteinte.
Absolument. Puis, je l'ai dit, puis je vais le redire, là, selon moi, s'il y a des équipes comme Colorado ou Edmonton qui sont intéressées à Jonathan Toews, dans le style de joueur, selon moi, Toews va partir avant Monahan. Donc, peut-être que ça va dicter le marché pour Sean Monahan, mais je suis d'accord avec Marc. T'sais, si le Canadien avait déjà eu un premier choix pour Monahan, il serait peut-être déjà parti dans son cas. Puis, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas deux choix de première ronde d'ici la date limite des transactions. Un pour Monahan, puis un ailleurs, que ce soit un défenseur jumelé à quelque chose ou un Anderson. Vas-y, Marc.
Tu m'avais dit à peu près jusqu'à 20. Yann, on dirait qu'il n'y a pas d'entraînement pour les Flames, puis Daryl Sutter va parler. Fait que moi, j'irai écouter ce que Daryl Sutter a à dire. Si avez-vous encore besoin de moi, là, je sais, ou c'est-tu parce que Guy a des problèmes? Voulez-vous que je reste là ou...
Oui, il y a des problèmes, c'est correct. Okay. Au pire, on va le retrouver au téléphone. C'est correct.
Regarde, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Au pire, allez, là, je vais. C'est correct, là. C'est parce que je regardais les autres membres des médias qui étaient là. Puis il n'y aura pas d'entraînement complet donc pour les Flames. Là, c'est vraiment juste les deux gardiens puis les deux joueurs supplémentaires. Fait que c'est pas grave. Daryl Sutter, là, je l'ai déjà entendu. Fait que c'est pas la fin du monde. Je vais rester là en attendant que Guy se connecte. Alors, ouais, voilà. Puis, une semaine émotive pour les Flames. C'est le retour de Monahan aujourd'hui, mais ils viennent de jouer tout un match contre les Panthers de la Floride. Certains pensent que c'était peut-être leur meilleur match des Flames, en tout cas récemment. Ils ont très bien amorcé la saison. 5 victoires dans les 6 premiers matchs. Mais depuis cette séquence-là, là, de 5 en 6 pour commencer l'année, ici à Calgary, ils disent que c'était leur meilleur match contre les Panthers avant-hier.
Vas-y, Yannick, je suis en train d'essayer de sauver Guy de se passer par la fenêtre lui-même.
Au pire, on le fera au téléphone, c'est pas grave. On va garder Marc un petit 5 minutes, puis on va le libérer pour qu'il puisse
procéder. Ah ouais, pas trop.
Hey, Marc, il y a beaucoup de gens qui te posent des questions. Donc, on va profiter de ça pour t'en poser quelques-unes. Okay. Mais là, avant, je vais juste permettre aux gens de la télé de revenir. Là, la pause télé qui se termine dans quelques instants. Donc, je salue rapidement Michel Vaudron, l'a fait tantôt, Jérémy Veilleux, Stéphane Brunel sur YouTube, Claude M. François Poirier, Marc Cormier, Éric Villemaire, des habitués, là, Maxime Bouillon également. Et les gens de la télé vont revenir. Et, puis je te lance une question. Ben, en fait, je vais t'en lancer deux, mais une concernant Carl Pettersson. Mais on va, pour le moment, laisser les gens de la télé revenir avec nous. Nous sommes en discussion avec Marc Denis. Guy Boucher devrait se joindre à nous dans les prochaines minutes et Sidney Faureau pour nous parler de la défaite du Canada face au Maroc ce matin à la Coupe du Monde. Question du public concernant le gardien des Kings. Attendez, je veux retrouver. Bon, voilà, c'est Maxime Carl Bouillon, Peterson. Marc, qui te demande « Que penses-tu de Carl Pettersson soumis au balatage par les Kings? » Un gardien intéressant, mais avec quand même un contrat assez élevé.
Je pense qu'il tient sa mitaine dans mauvaise main.
Ah! T'en manques pas une.
C'est bon.
Écoute, c'est tellement un préjugé, là. C'est ça, c'est le contrat. Quand on me pose la question, là, c'est sûr que du point de vue du Canadien, pas d'intérêt. Maintenant, moi, je pense qu'il pourrait se trouver de la place à quelque part dans la Ligue nationale de hockey, mais il faut que tu aies... si vous avez les informations du contrat, là, Martin, pendant que j'en parle, gêne-toi pas pour me les fournir ou Yannick, là, mais la réalité, c'est qu'il faut que tu aies des plans de... Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut que tu aies des plans de le faire jouer puis d'y aller d'une transition devant le filet. Là. Tu peux pas juste aller récupérer ça comme étant un joueur à l'essai, là. C'est le danger d'un joueur qui se trouve au balotage là, avec un contrat de la sorte. J'ai besoin d'un échantillon plus grand, honnêtement, dans le cas de Calvin Pettersson. Puis je ne suis pas certain que Carl Pettersson est un gardien de but numéro un qui commande ce genre de salaire-là. Les Kings, je ne dirais pas que c'était en panique, mais tu sais, avec Jonathan Quick qui était vieillissant, ben, tu sais, peut-être que tu n'avais pas le choix non plus. Fait que voilà ce que j'en pense.
Tu avais les bons chiffres, Marc. Il reste un autre 2 ans à 5 millions pour lui en plus de cette année. Puis selon moi, c'est pour ça que les Kings n'ont pas eu peur. Il a besoin de jouer. Il est tout croche. Il n'a pas retrouvé ses repères. Fait que d'après moi, les Kings, ils ne l'ont pas mis au balotage pour qu'il se fasse prendre. Je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'il se fasse prendre quand tu n'aurais pas les rondelles à 5 millions. Il a besoin de jouer au hockey. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a envoyé.
Ça va-tu? Martin, là, mettons qu'on pense vite, le Pianic, là. Est-ce que les Sabres sont rendus au point où... C'est ça. Comrie blessé à long terme, pas vraiment un numéro un déjà. Anderson vieillissant. Est-ce qu'on laisse le filet à Luokonen parce qu'on a déjà jeté la serviette pour cette saison? Je ne sais pas, là. Tu sais, est-ce que Carl Pettersson, c'est trop en attendant, le nom m'échappe, le gardien de but de Northeastern, le gars de Montréal, Devin
Levi.
Tu sais, ouais, Levi, Devin Levi, est-ce que, tu sais, bref, je lance ça de même, là, parce que j'essaie de penser à des situations dans la Ligue nationale avec des équipes qui auraient peut-être besoin d'un gardien comme ça. En tout cas, mais c'est sûr que c'est un nom qui est intéressant, là. Quand tu as un gardien de but qui a quand même ce potentiel-là, qui se retrouve au balotage, c'est sûr. C'est sûr que c'est intéressant pour répondre à la question.
C'est clair. Un petit mot sur, si les gens en parlent encore ce matin, on en a parlé hier. Là, je ne sais pas. Valérie, je sais que tu me parles pour Guy, mais je ne suis pas sûr que j'ai
Guy
compris.
Guy est prêt.
Tu veux qu'on rentre Guy? Bon. Marc, je veux juste te poser la question, un petit mot là, en finissant sur la santé de Christopher Le Temps. C'est sûr qu'on lui souhaite un prompt rétablissement.
Oh. Oui, mais en deuxième AVC. Oui. Tu sais, quand on lit des nouvelles comme ça, là, ça vient nous chercher droit au cœur. Puis, tu sais, la communauté des Québécois dans la Ligue nationale de hockey s'est tissée serrée. Puis, c'est sûr que. Moi, je pense même pas à sa carrière, là. Je pense à, tu sais, l'homme de famille, le père, le mari, l'ami, le citoyen qui va être pas mal plus longtemps qu'il va avoir été joueur de hockey, même s'il va avoir été joueur de hockey très longtemps, Christopher Le Temps, ben c'est ce qu'on veut, c'est qu'il s'en remette complètement, qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'il n'y ait pas de fâcheuses conséquences, puis qu'il ne vive pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors moi, c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans le cas de l'état de santé de Christopher Letas. C'est épeurant, puis il n'y a personne qui est à l'abri, même les athlètes. Alors, des fois, ça ne tient qu'à un fil.
Et Marc, tu as le temps d'aller retrouver Daryl Sutter. Il n'a pas commencé son point de presse. Donc, on va te libérer.
Ah,
on va
c'est
te laisser
bon,
descendre
ça.
Au niveau de la patinoire. On vient d'avoir la confirmation.
Pas de problème.
On va te laisser aller, Marc. Un gros merci.
Pas de trop. Hey, c'est toujours un plaisir.
Merci
salut
beaucoup
tout le monde. Salut à Guy. Salutations à Guy aussi. Non, non, aucun problème. Ça fait plaisir.
Bye-bye.
Alors, notre
ami pouvoir entendre Marc
Denis.
Ce soir. Le match est à 21h, Canadien Flames. Et on va aller rejoindre le Capitaine Techno, l'homme qu'on appelle quand notre téléphone gèle, Guy Boucher.
Ah, il est là! On le voit! Oh, puis on s'entend en double à part ça.
Ah ouais, ben c'est parce que j'ai comme... je vous entends juste à cause que mon téléphone est allumé, là, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que... Mettons que je suis en beau, je vois le vert. Fait que c'est correct. Ça fait une demi-heure, je gosse là-dessus, puis les speakers fonctionnent pas. Aucune raison. Fait que... vous m'entendez, mais moi, je vous entends pas avec mon ordi. Là, je m'entends avec votre téléphone. Fait que j'espère que ça va sonner comme du monde.
OK, bien, on parlera pas longtemps, OK? On va y aller court pour que tu puisses y aller. Pourquoi les défenseurs du Canadien, depuis que les vétérans sont là, c'est difficile? À vous.
Bon, bien, c'est difficile. Un, il y en a qui, tu sais, qui vont dire que vu qu'il y a un roulement, ça change un petit peu l'ordre établi de ce qu'il y avait avant. T'habituer, les rôles changent, le nombre de minutes change, ça, c'est certain. Par contre, moi, ce que je vois plus, c'est que t'as des vétérans qui sont revenus, t'as Edmundson qui est revenu, puis t'as Matheson, qui sont des vrais top 4 dans le national. Fait que de dire que les jeunes sont meilleurs en ce moment, c'est complètement faux. Mais il y a un ajustement à faire, puis ce que je vois beaucoup, c'est que au début de l'année, les défenseurs du Canadien, moi, ils m'avaient surpris, Harris, Jacky, entre autres, parce que durant le camp, il se lançait, il se sortait du jeu. Jacky sortait du jeu défensivement, il essayait de pincher partout. Puis Harris se sortait du jeu offensivement, donc il se perdait, il avait de la misère à être de retour, il ouvrait le jeu et tout ça. Alors, c'était clair qu'au début d'année, c'était un bon ajustement de Martin, de demander aux défenseurs d'être plus passifs un peu, de reculer, de prendre les rushs, de prendre l'attaque. Et justement, donner un peu moins de surnom, puis d'ouvrir ça moins, prendre le moins de chances possible défensivement pour justement se donner une chance d'avoir le nombre de joueurs requis pour défendre. Là, ce qui arrive, c'est quand des joueurs comme Edmundson reviennent, des gars comme Matheson, puis même un gars comme Savard, une fois qu'il joue avec un vétéran, ainsi de suite, bien, ce qui arrive, c'est que un, l'équipe se sent meilleure, fait qu'il va partir plus à l'offensive, alors que ça ne devrait pas être ça. Mais aussi, ça crée des problèmes dans l'ajustement entre les gars. On va vous donner un exemple. Edmundson, c'est un expert de l'écart défensif. Il était exceptionnel l'année dernière, je l'adore. Mais, on va vous donner un exemple ici. Alors, on va vous donner un exemple avec un crayon qui fonctionne, parce que c'est ça. Alors, tu as deux défenseurs. Okay? Tu as deux défenseurs comme ça, puis tu as l'adversaire qui attaque avec la rondelle. Et que ce soit en sortie de zone ou que ce soit en zone neutre, ce qu'on va demander aux défenseurs, évidemment, c'est donner le moins de temps et d'espace. On a demandé aux défenseurs, fort probablement, de reculer plus en début d'année, puis de gagner du temps pour essayer d'avoir de l'aide des attaquants et tout ça. Okay? Mais en faisant ça comme ça, bien, le milieu était moins ouvert. Mais un gars comme Edmundson, par exemple, disons avec un jeune défenseur ou un autre, on va l'appeler D2 ici, puis on va avoir un D1 là, bien, Edmundson, lui, il va avoir tendance à aller fermer tôt son écart défensif, donc excellent, même plus bas, même en zone offensive ici, où il va le faire en zone neutre, vous me suivez. Mais voici, par contre, ce que ça occasionne. Ce que ça occasionne, c'est que, voyez-vous le trou béant qu'il y a entre les deux défenseurs maintenant? Je vais vous le mettre en rouge. OK? Alors, est-ce que la faute est à Edmundson ou la faute est au deuxième défenseur qui ne va pas couvrir le centre? Ou à un troisième attaquant. Alors, c'est pour ça que c'est un mélange. C'est le fait que Edmundson, c'est un expert des corps défensifs, va le faire immédiatement parce que c'est inné, OK? C'est dans ses grandes forces. Mais après ça, c'est la compensation des autres qui compte. C'est pas faute à Edmundson ici. Alors, il y a deux types de compensation. C'est soit dans ton système, puis je peux pas le dire lequel système le Canadien joue, parce que ça change tout le temps. Les lectures, en tout cas, c'est dur pour moi parce que c'est pas clair. Ça, c'est sûr que c'est pas clair. OK? Fait que je vais donner un exemple, tu vas pouvoir contrer ça, parce que lui ici, vu que le milieu est ouvert, il va avoir un deuxième attaquant qui va s'en aller dans le milieu. Fait que ce qu'on a vu souvent comme ça, avec des longues passes, bon, ben, Ça, c'est couvert par qui? C'est couvert par le deuxième défenseur, puis c'est ce qu'on appelle un squeeze. Tu vas squeezer. Donc, tes deux défenseurs sont à moitié de glace. Donc, ça l'empêche ce jeu-là, ça l'empêche cette échappée-là, mais il faut que ça soit ton système. Okay? Et dans un cas comme ça, là, tu devrais avoir, je vais effacer tout le reste, hein, pour juste vous montrer que clairement, c'est que tu es rendu avec ton défenseur-là, tu es rendu avec l'attaquant adverse ici, mais qu'est-ce que ça l'ouvre? Ça l'ouvre l'extérieur. Alors, dans ton système, tu vas avoir besoin qu'on demande ce qu'on appelle un lock wide, ça veut dire que un attaquant, ton troisième attaquant, ne courra pas près des rondelles. Moi, je vais le mettre ici, hein, en trois. Fait que lui, à la place d'aller sur la rondelle, comme on voit souvent, on va lui demander dans la largeur. Donc, tes trois corridors sont couverts. Et c'est ce qui fait que tu vas t'en tirer. Un, deux, trois. Il n'y a pas de longue pause pour un échappé ou il n'y a pas de longue pause pour un gars tout seul. Alors ça, c'est un ajustement par rapport à qui tu as comme joueur, mais surtout aussi par rapport à tes systèmes. Et des fois, c'est même pas un ajustement de système, c'est le joueur qui dort au gaz. Je vais être franc avec vous, à l'attaque, ça dort beaucoup au gaz défensivement sur les replis défensifs comme ça. Une autre façon de jouer pour contrer ça, c'est quand tu demandes, tu laisses ton défenseur en largeur, mais ton troisième attaquant, il est très haut, c'est ce qu'on appelle un split. Alors quand le jeu s'achemine, on a un attaquant ici qui est déjà en repli défensif en splittant les deux défenseurs, ce qui couvre le milieu. Donc, la passe dans le milieu n'est pas disponible et la passe en largeur ne l'est pas non plus. Ça, de vous dire, la faute est à qui là-dessus? Je ne suis pas dans la chance. Quand tu vois des équipes aguerries, si on regardait, par exemple, les équipes à Barry Trotz ou tu vas regarder Tampa, c'est clair. Je vais te dire, ils jouent un lock, ils jouent un split. Comme à New Jersey l'autre jour, eux autres, ils jouent un split avec un troisième attaquant dans le milieu et puis il est très haut. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a une attaque, t'as un écart défensif très rapide. Moi, à Ottawa, je joue un split, mais à Tampa, je joue un lock wide. Ça dépend du type d'individu que tu as. Mais une chose est certaine, j'ai vu énormément de trous béants entre les deux défenseurs à cause de la largeur que ça crée entre les deux défenseurs. Est-ce que c'est la faute du Edmondson ou d'autres qui ferment le gap comme ça rapidement ou un Matheson? Non. Mais par contre, le réajustement des autres, pour moi, c'est clair qu'il manque de soit de clarification ou soit de. Ou soit que tu réponds à ce que tu es supposé faire. Donc, un jugement.
Guy, là, je vois tes explications concernant les défenseurs, puis il y a énormément de gens qui réagissent et qui posent des questions. Mais comme le temps file rapidement, je vais aller à ton deuxième sujet, parce que là aussi, il y en a beaucoup de questionnements sur l'avantage numérique du Canadien. Ça s'est replacé un petit peu. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Explique-nous ça un petit peu. Là. Je me rappelle, tu nous avais expliqué il y a quelques semaines l'avantage numérique de périphérie puis l'avantage numérique de jouer plus dans le centre. Donc là, j'ai l'impression qu'on est revenu beaucoup en périphérie, en tout cas dans le dernier match contre les Sharks. Mais c'est pas moi le coach, pas moi l'expert. Explique-nous ça. Vas-y. Tu vois, j'ai bien fait. Là. T'es pas d'accord.
Non, mais je veux dire, c'est bien que tu te rappelles là, ce qu'on avait parlé. On était en périphérie, puis tout d'un coup, on a vraiment changé. On a commencé à rentrer à l'intérieur. On a vu que Suzuki à l'intérieur, Caulfield à l'intérieur. Ça a duré quand même un bon bout de temps, même que je vous dirais au dernier match, ça n'a pas été le problème majeur. Ça fait un bon bout de temps que c'est pas un problème majeur. On essaye vraiment de jouer à l'intérieur. On essaye d'avoir Suzuki qui va rentrer. À l'intérieur, il a même marqué il n'y a pas si longtemps. Il y a Caulfield qui est à l'extérieur, mais il va rentrer. On a un bumper. Ça a comme été réglé. Puis quand on ne le fait pas, c'est une anomalie là, du moment. Là, ce qui arrive, évidemment, c'est que un désavantage numérique va toujours défendre côté spécifique. Mon dernier match, personnellement, il n'y aurait pas eu 100 000 affaires à changer. Tout le monde regarde le résultat. Donc on se dit, on n'a pas scoré, on n'a pas été bon. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu plusieurs jeux qui auraient pu devenir des buts. Fait que c'est pas de tout changer, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs buts. Mais ceci étant dit, que ce soit au dernier match ou les autres matchs ou ceux qui s'en viennent, on n'aura pas le choix de développer d'autres expertises à l'intérieur du même pattern. OK? Alors, je vais vous donner des exemples. Tous les avantages numériques sont des 1-3-1. OK? Maintenant, là. OK, c'est sûr que 1-3-1, il n'est pas statique comme ça, mais je vais vous le mettre pour comprendre. OK? Alors, tu as un défenseur en haut avec quatre attaquants la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle le bumper dans le milieu. Puis ce joueur-là ne reste pas devant le filet comme dans le vieux hockey. Lui, il se promène. Il est devant le filet, il est sur le côté, il est en arrière du filet. Bon. Alors, quand on demande de jouer à l'intérieur, on soit qu'on monte, on descend, on joue avec des lancers sur réception quand t'en as. Bon, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est que quand tu es un désavantage numérique, c'est l'affaire la plus spécifique au hockey. C'est-à-dire que tu es tellement... Premièrement, tu as ta façon de défendre, mais elle est toujours dépendante de l'avantage numérique contre lequel tu joues. Alors, tu vas toujours regarder l'avantage numérique adverse, puis avec trois matchs, quatre matchs, cinq matchs, tous les buts qu'ils ont marqués, tu sais exactement c'est quoi leur force, qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Et donc, ton désavantage pour ce match-là va être fait en conséquence de défendre les plus gros points. Okay? Donc, on sait très bien que c'est Suzuki qui contrôle l'avantage numérique et qu'on veut avoir Caulfield la grande, grande majorité du temps qui prend le lancer. Donc ça, déjà là, c'est la même chose qu'avec Ovechkin. C'est la même chose qu'à Tampa avec Stamkos et j'ai eu Stamkos. Alors, je sais exactement de quoi on parle. Alors, on va enlever ce jeu-là la plupart du temps. Puis la manière qu'on va le faire, il y en a plusieurs façons, mais on va s'arranger pour que Caulfield ne soit pas libre sur l'endroit de prédilection. Donc souvent... C'est pas un défenseur qu'on va avoir à l'extérieur. On va demander à un attaquant. Bon, le noir a de la misère, là, un matin. Là. On va demander à un attaquant ici de... Attends, on va changer de crayon encore. OK.
Comme ton...
Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu vas demander à un attaquant d'être là, pas un défenseur ici. Pourquoi? Ben parce qu'avec un défenseur, il est pris entre les deux, puis le lancer va se faire quand même. Donc, avec un attaquant, ton joueur en bleu ici va être obligé de sortir comme ça. Fait que là, il s'éloigne. Nous autres, on avait beaucoup de succès contre Ovechkin. Puis ceux contre qui nous autres, on avait de la misère quand Stamkos était là sur mon power play. Mais c'était ceux qui mettaient un attaquant en arrière. Pourquoi? Parce que ça tassait complètement ces shooters-là. Fait que là, ce qui arrive, c'est avec Caulfield, tu vas souvent avoir un attaquant maintenant qui va monter et descendre comme ça pour empêcher que Caulfield puisse avoir la rondelle qui vient ici de Suzuki, souvent qui va monter, qui va faire cette passe-là backdoor, là, comme ça. Ce qui fait qu'après ça, tu vas pouvoir avoir un défenseur ici, comme ça, qui va s'occuper du milieu, puis tu vas en avoir un autre là, comme ça, fait que, avec un autre attaquant là. Fait que ce qui fait que juste par le choix de ta défensive, tu vas être capable de contrer ce genre de jeu-là. Bon.
Ça veut dire que... tu fais un lock sur Caulfield, puis tu prends 4 contre 3.
C'est pas un lock, mais tu lui donnes cette région-là. Lui, là, tu te gardes. Tout ce qui est ici, là, tu t'arranges que ça soit plus reculé que d'habitude. Ça veut dire qu'il peut venir aider sur un lancer, mais sa job principalement, oui, c'est plus en largeur. Fait que ce qui fait que tout le reste, ça devient un 4 contre 3, OK? Mais justement, tu vas toujours laisser le gars qui est moins dangereux, puis le Canadien, c'est soit le bumper, soit lui. Okay. Alors, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses dans ces situations-là pour empêcher, par exemple, moi, je joue contre Caulfield puis Suzuki, on va leur empêcher ça 90-95% du temps. Puis même quand on l'empêche pas, le gardien but le sait. Il va voir la passe partir, il est déjà rendu, donc il s'en attend. Ça veut dire que c'est pas que tu veux t'enlever ce jeu-là, c'est qu'il faut que tu le caches à travers d'autres jeux, puis qu'il faut que tu aies d'autres jeux qui soient menaçants aussi, donc tu développes l'expertise. Exemple, un jeu ici, les jeux dans le bas de zone, tu vas demander à ton joueur de descendre, mais à l'intérieur du point de mise au jeu, sur la ligne des buts, pas en bas, ou si tu vas en bas, c'est parce que tu vas en arrière du filet, mais là, Suzuki peut rentrer et prendre des lancers quand même, mais faut que tu développes les petits jeux, ce qu'on appelle les low play, où ce que lui peut rentrer à l'intérieur lui-même, avoir le lancer sur réception sur le gars de l'intérieur, et le backdoor, peut-être qu'il peut s'ouvrir, mais plus bas qu'un Caulfield est d'habitude. Donc, il faut que tu développes des qualités de jeu et de la vitesse d'exécution avec ces quatre gars-là dans le bas. Évidemment, tu peux avoir ton joueur en haut qui a plus de lancers, ce que le Canadien ne fait pas. Il a recommencé. Là. Le problème, là, Yannick, c'est pas qu'on n'est pas à l'intérieur, c'est que là, on est rendu avec 6-7 passes encore, puis on fait le tour, puis on fait le tour, le merry-go-round. Ça, c'est de la cochonnerie, ça. Okay? Bon, fait que là, on essaie d'investir dans les beaux jeux, alors que c'est en bas de 15 à 20 des buts qui sont scorés sur des beaux jeux sur l'avantage numérique. Fait qu'on n'investit pas dans lancer, retour, deuxième essai, un tip, un rebound, une déviation, puis ainsi de suite. On investit dans le beau jeu. Fait que c'est clair que tu n'auras pas un gros retour. Ton beau jeu va venir dans le KO. Il va venir quand tu brasses ça avec des lancers, des rebonds et tout ça. Là, à un moment donné, un beau jeu va venir, mais rarement l'inverse. Bon. C'est-à-dire que tes petites passes en bas, tes jeux là, tes backdoors, ton walk-in qu'on appelle pour venir jammer, là, le Canadien doit absolument améliorer ça. Donc, il doit développer le jeu avec ces deux gars-là ici. Que ce soit les Monahan, les Gallagher, toutes les autres, là. On n'est pas assez bon ici. On a changé de gars. Il manque de finesse là-dessus puis d'exécution. Fait que ça, c'est une chose que tu dois absolument faire. Les meilleurs lancers de la pointe, les lancers sur juste des lancers au filet pour les mettre sur le filet, créer des choses. T'as pas besoin du gros lancer one-timer puis slap shot là, où tu manques le filet de trois quarts du temps. Là. T'as besoin juste de mettre des rondelles à l'intérieur puis d'avoir quatre gars. Là, t'as des rebonds, t'as des tips, t'as des rebounds, tu vas chercher des rondelles libres. Là, le désavantage numérique commence à courir partout. Bon. Là, dernière chose. Oui.
Vas-y, dernière chose en 20 secondes, parce qu'on a Sidney qui est là, qui nous attend pour revenir sur la défaite du Canada, puis je veux absolument qu'on garde un peu de temps pour jaser avec lui.
Bon, ce qu'on veut faire, c'est des permutations. Tu veux cacher Caulfield, OK? C'est-à-dire que Caulfield, one-timer-là, comme je faisais avec Stamkos, ben, tu lui fais faire des permutations avec soit ce gars-là, soit ce gars-là. Exemple, il rentre à l'intérieur... C'est lui qui prend sa place backdoor. T'as la même structure qu'avant, mais là, le désavantage numérique est mêlé. Si t'avais mis un attaquant là, wow, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, c'est soit Caulfield qui va être de l'intérieur puis peut recevoir autant des one-timers de là, OK? Ou c'est le gars backdoor qui va être libéré parce qu'avec les permutations, viennent les hésitations puis les gars mêlés. Tu peux aussi faire ta permutation avec ton gars d'en haut. Fait, avec Stamkos, on le faisait tout le temps. Changeait lui, Stamkos prend sa place, lui prend sa place. Là, tu vas avoir un lancer de Caulfield d'en haut. Fait que tu peux changer avec des permutations pour que ta cible numéro un soit dans d'autres endroits. Donc là, ça vient maintenant pour des avantages numériques. Fait que ça, c'est de développer les autres joueurs, les autres petits jeux. Ça, c'est une façon d'aider l'avantage numérique. Puis l'autre façon, c'est de faire des permutations, de permettre à ta cible numéro un de pouvoir avoir différents angles de tir, donc difficile à être couvert.
Guy, on va ce soir et samedi regarder ça, puis on aura l'occasion d'y revenir. Tu seras avec nous au début de la semaine prochaine. Donc, deux choses. Regarde l'avantage numérique du Canadien pour les prochains matchs, puis fais réparer ton ordinateur. Ou fais tes ajustements.
C'est bon.
Salut, coach.
Merci.
Bye-bye. Salut, mon chum.
Bye-bye, Guy. Alors, oui, on va terminer cette émission avec notre collaborateur qui est aussi animateur du balado Loin de s'en foutre, Sidney Faureau, qui est déjà installé. Désolé, Sidney, pour le petit délai. On a eu des ennuis avec Guy, mais on est là. Il faut revenir sur cette défaite du Canada, son dernier match à la Coupe du Monde. On l'accueille. Salut, Sidney, comment vas-tu?
Ça va très, très bien, Yannick. Salut, Martin. Vous allez bien?
Salut, bonhomme. Ça va bien, oui. Toi?
Vous en faites pas, c'était super intéressant avec Guy. J'en ai beaucoup appris.
Ah, ben c'est le fun.
Ça pourrait appliquer certaines techniques. Tu pourrais appliquer certaines techniques au ballon rond, c'est certain, avec les permutations et tout. D'ailleurs, je me demande des fois pourquoi le ballon rond, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que je ne commencerai pas à jouer au spécialiste de soccer. Je ne suis pas, mais toi, tu l'es. Le Canada a perdu aujourd'hui face au Maroc rapidement. On s'est mis dans le trouble. Je présume qu'à ces niveaux-là, revenir de l'arrière, c'est pas comme dans MLS.
Puis, là, tu l'as dit?
Bon, attends une seconde. Vas-y en 20 secondes, après ça, on va saluer les gens.
Très bien. Ben, ça a commencé mal. Bourde monumentale de Vitoria et de Borjan. 1-0 contre le Maroc. Tu te mets dans le coup tout de suite. Avec une ambiance survoltée. Il y avait quasiment que des Marocains qui étaient au stade. Et c'est impossible de jouer un match comme ça, même si c'est un match pour l'honneur. Tu étais déjà éliminé, mais c'est le point de départ du Canada est inacceptable.
Bye à nos mères. On poursuit sur le web. Venez nous rejoindre. Vas-y, Sidney, je m'excuse.
L'entame de match complètement ratée de la part des Canadiens, de façon un peu inexplicable. On jouait sur les talons. Comme j'ai dit, l'ambiance au stade était majoritairement marocaine. Mais ce sont des grands garçons. Ils ont aussi pu prendre des points à l'Azteca au Mexique. Donc, ce n'est pas une raison d'être intimidé par quoi que ce soit. Mais on avait une équipe qui avait beaucoup plus d'envie en face, qui n'a pas fait de calcul, qui avait besoin d'une victoire ou d'un match nul pour se qualifier, mais qui a fait tout son possible. Côté canadien, on n'avait pas fait beaucoup de changements par rapport aux 11 de départ des derniers matchs. On peut poser la question d'une rotation. Herdman est quand même allé avec ses joueurs clés et pour autant, ça n'a pas suffi au début. Et on s'est fait battre sur des jeux qu'on est censé maîtriser aujourd'hui. La fameuse balle en profondeur, ça vous a rappelé le but contre la Belgique où on va chercher dans le dos de Victoria, Miller et Johnston. Et là, encore une fois, on a fait une différence. Donc, c'est décevant quand même. Après, il y a une réaction du Canada, une très bonne deuxième mi-temps. On a beaucoup poussé. On a failli capitaliser, aller même égaliser peut-être. Ça s'est joué à quelques centimètres côté canadien. Donc, il y a quand même des motifs de satisfaction. Néanmoins, quand on voit que le Maroc est premier du groupe et qu'on pense que le Maroc, ce n'est pas forcément une équipe auquel on a beaucoup à envier, en tout respect aux Marocains, ben on a quand même un sentiment un peu de déception au Canada.
OK, Sidney, je te pitche deux questions vite en rafale, vu que le temps nous coince un peu. Premièrement, très déçu que Samuel Piette n'ait pas eu l'occasion de fouler le terrain. Moi, j'aurais aimé ça qu'on lui donne la chance de jouer, même si ce n'était que quelques minutes. Et la Belgique qui est éliminée, ça, là, c'est vraiment incroyable. Quand tu penses à ça comme il faut, tu sais, les Belges auraient dû passer dans ce groupe-là.
Ouais, jouer une Coupe du Monde, c'est le rêve d'une vie, Yannick, comme de ne pas avoir trouvé des minutes pour Samuel Piet, qui a rendu tellement de services au programme canadien, je m'explique oui. Mal. Je pense que véritablement, avec la blessure de Sakio notamment, je pense qu'il y avait de la place pour Samuel Piet au milieu de terrain. Marc-Anthony Kay n'a pas montré grand-chose non plus. Donc, avec 5 changements par match, c'est sûr qu'il y a en tout 7 joueurs qui n'ont pas joué, dont 2 gardiens. Donc, on va dire 5 joueurs de champ qui n'ont pas joué. Moi, je suis déçu pour Samuel Piet. On sait qu'il aura la chance de se reprendre en 2026, mais c'est loin et il méritait ça tout de suite. Puis la Belgique, tu le fais bien, c'est la grosse surprise de ce mondial, cette élimination. Il y a des matchs encore qu'il y aura. L'Allemagne est encore derrière de son groupe. On verra qu'est-ce qu'elle va faire tout à l'heure. Mais la Belgique, personne n'aurait pu prédire l'élimination de la Belgique. Et puis tu vois que le vestiaire commence complètement à exploser côté belge, où tout le monde se renvoie la balle et se pointe les doigts. Mais c'est encore plus regrettable. C'est avec Belgique à ce niveau-là, je pense que le Canada avait la place de faire mieux. Et au moins aller chercher un point, je crois qu'il l'aurait mérité.
Oui, absolument. Dans ce tournoi, Sidney, qui a bien fait? Qui a surpris? Qui sort de cette ronde de qualification-là? Puis que tout le monde fait « wow », on n'y avait pas pensé à eux.
Eh bien, il n'y a pas vraiment une équipe « wow ». C'est une excellente question, Martin, là, parce que je pense que c'est un des tournois qui est les plus serrés. Donc, y a toutes les équipes ont montré des phases de doute. Tu m'aurais posé la question hier, je t'aurais dit la France. Mais la France vient de se faire battre par la Tunisie. Oui, ils ont fait rouler leur effectif. Mais quand même, il y a du doute. L'Espagne qui a fait un 7-0 contre Costa Rica. Et là, il y a eu un partout un peu douteux contre l'Allemagne. Je peux y aller pour tous les favoris. L'Argentine qui a été battue par l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucune équipe pour l'instant qui vraiment est en pleine confiance. Tous les voyants sont au vert. Donc, ça fait un tournoi qui est intéressant. Le Brésil, qui est largement favori, mais sans Neymar, qui est leur meilleur joueur, comment ils vont réagir quand l'adversité va augmenter? Donc, c'est un tournoi qui est extrêmement serré, très difficile à prédire, et ça fait que c'est plaisant pour nous, amateurs de foot, mais je pense qu'il y a une équipe qui véritablement se dit « oui, nous, on est là où on voudrait être ».
OK, je termine ça en 20 secondes. Je sais que c'est difficile à prédire, mais je t'en pose une parce que c'est encore loin, là. Tu vas me dire, il y a toute la ronde éliminatoire qui s'en vient. Qui sera, selon toi, en grande finale, le troisième dimanche de décembre de cette Coupe du Monde? Nomme-moi les deux pays qui vont s'affronter.
Oh, les deux. Écoute, j'ai pas fait le bracket, donc ça se trouve, je te dis des choses qui ne sont pas possibles. Mais moi, l'Argentine de Messi, elle a ce petit quelque chose de magique. J'ai l'impression qu'il y a un petit esprit qui les anime, et l'Espagne. L'Espagne, je pense que d'un point de vue collectif, wow, c'est la plus grosse puissance de ce tournoi. Donc, à l'Argentine, l'Espagne, mais ça se trouve, ça n'a aucun sens. Ils sont peut-être du même côté du bracket. Donc, je te dis ça comme ça, Yannick, mais je parle un peu par-dessus mon chapeau.
Non, mais c'est correct. C'est vrai, tu sais, je te demande de me pitcher ça vite, vite comme ça. Mais c'est juste pour s'amuser un peu. On va continuer à te suivre, évidemment, sur le balado, Loin de s'en foutre. Et je veux te remercier, Sidney, pour ta collaboration avec nous durant la présence des matchs du Canada. Donc, c'était fort apprécié. Puis on te souhaite une bonne fin de tournoi, puis beaucoup de plaisir, puis beaucoup. Surtout, on souhaite beaucoup de bons matchs.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Yannick. Ça me touche beaucoup, la place que vous avez mise au soccer pendant le tournoi. Donc, merci. Et au nom de beaucoup, beaucoup de fans, on vous remercie.
C'est très apprécié.
On se croise.
Exact. Salut, Sidney. Bonhomme. Sidney Faux, notre expert soccer qui est avec nous lors des matchs du Canada. Donc, encore une fois, on vous rappelle que le Canada s'est incliné 2-1 face au Maroc aujourd'hui. La Belgique a fait match nul avec la Croatie. Donc, on se retrouve avec Canada et Belgique éliminés dans ce groupe-là. Il y a d'autres matchs à se poursuivre, évidemment, sur les ondes de RDS encore jusqu'au 18 décembre. 18 ou 19 décembre, si ma mémoire est bonne. Jusqu'au troisième dimanche de décembre, en tout cas, ce tournoi de la Coupe du monde. Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, allons-y avec nos trois étoiles.
Absolument. La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Jeannot Chandonnet.
La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Jack Delisle.
Et la première étoile, the first star de YouTube, Yanis Cabet. Cabet!
Alors, un gros merci à nos collaborateurs aujourd'hui, Marc Denis, Guy Boucher et Sidney Faux, qui ont participé à l'émission. Valérie Gautran, réalisation, mise en onde, un gros, gros merci. Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS et évidemment, à nous, Grignon Langlais, toute l'équipe de la salle des nouvelles de Sport 30. Merci beaucoup à vous tous, les jaseux, de nous suivre, de prendre le temps de nous écrire, surtout que vous soyez sur Facebook, rds.ca, YouTube ou à la télé via RDS, RDS Info. Ben, on vous dit un gros, gros merci de votre fidélité, c'est très apprécié. Demain, on va analyser en profondeur le match canadien Flames, puisque Karel Lemar sera avec nous et Gilbert Delorme.
On vous rappelle cette défaite du Canada 2-1 face à la Croatie. On vous rappelle que le match de ce soir est sur... C'est quoi j'ai dit Croatie, hein? Maroc.
Ouais.
T'as raison. Et ce soir, on vous rappelle, le match, bien sûr, est sur RDS et le match est à 21h avec Pierre et Marc. Donc, merci à vous, les jaseux, d'avoir été là. Merci à toi, Yann, Valérie. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.